Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups Humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et même à 23h. Cette semaine, Faire famille, une série d'Émilie Chaudet réalisée par Jean-Philippe Navarre. Au départ de cette série, il y a la question de la PMA pour toutes et toutes les familles qui nous entourent. Névrosées, nombreuses, monoparentales, dysfonctionnelles, bienveillantes, chaleureuses ou toxiques, il y a les secrets qui les fabriquent ou qui les disloquent. Alors pour commencer, les personnages. Une autrice orpheline à la recherche d'histoire, un fils d'on ne sait qui devenu détective, une fille sans père, un psychiatre qui s'éloigne et un charron ruiné. Ensuite, le décor. Un banc au cimetière du Montparnasse, un vélo, une tombe, le poids de la lâcheté, un meurtre, la folie, des dessins, la paranoïa et la peur de reproduire. Aujourd'hui, 3e épisode, on est au cimetière.
Vous connaissez ce cimetière ?
Oui, je le connais bien, mais je m'y repère pas. Je me repère nulle part, même pas dans les cimetières. Je préfère celui du Père-Lachaise, néanmoins. Celui de Montparnasse, il a un côté plus bourgeois, qui n'est pas désagréable non plus.
Qu'est-ce que vous venez rechercher dans les cimetières quand vous vous y promenez, Chloé Delhomme ?
Les histoires. En fait, chaque tombe est une histoire. Moi, je ne suis pas une génératrice d'histoires. En général, j'utilise ce que je connais, c'est-à-dire moi, si tant est qu'on arrive à y comprendre quelque chose. Et les tombes, à chaque fois, c'est des histoires de vie potentielles, des petites boîtes à imaginaire, toutes, avec des souffrances aussi inédites ou des trucs à inventer.
J'aimerais peut-être qu'on se pose un peu si...
Oui, il y a un petit banc là-bas, par exemple. Et puis on pourra dégainer un parapluie que j'ai dans mon sac.
Faire famille. Émilie Chaudet, Jean-Philippe Navarre. 3e épisode. En finir avec le secret.
Chers membres de ma famille, si vous lisez cette lettre, c'est que vous êtes encore vivant et que par conséquent, la magie noire est une arnaque, je tiens tout de même à le préciser. Je vous écris d'une tombe que vous connaissez bien, celle qui héberge ma mère et le grand-père dessus. Le temps est incertain, je ne passe pas de bonnes vacances. J'avais pour projet d'assassiner Mamie Suzanne en écrivant un livre qui lui cracherait le vrai au point de lui provoquer une rupture d'anévrisme. Ce n'est pas très gentil. Mais c'est ce qu'elle mérite. Vous n'êtes pas sans savoir que j'ai mis des années à pouvoir me reconstruire. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a maintenant 4 ans m'a été révélée une bonne nouvelle censée me faire plaisir. Vous ne pouvez ignorer que la révélation de ma soudaine bâtardise a eu pour conséquence un éboulement du moi et que ça doit se payer. Alors on doit être aux alentours de 2009, je pense, ou 2008... J'ai ma cousine maternelle qui me contacte. J'ai plus aucun contact avec les membres de ma famille depuis mes 17 ans et demi. Et qui me dit qu'elle a donc une bonne nouvelle qui va me faire plaisir. Donc je ne sais pas à quoi m'attendre dans la mesure où rien que d'absolument toxique n'émane de cette famille. Mais bon, j'y vais quand même. Et là, elle me dit, voilà, Sylvain n'est pas ton père. Dans la mesure où j'ai la trentaine très tapée à ce moment-là, je me suis construite en étant la fille de l'assassin de ma mère, mais je me suis construite avec ça. Je me suis construite avec sa schizophrénie, avec sa violence, mais je me suis construite avec cet homme-là. Et d'un seul coup, ça, on me l'enlève. Donc il y a un éboulement du moi assez profond qui s'opère immédiatement. Et puis de là, je commence à rappeler la cousine, à lui demander qu'elle m'en dispute, parce qu'il est hors de question que je reparle à la grand-mère. Avec la grand-mère, les liens sont vraiment rompus. Or, l'information, évidemment, émane de la grand-mère. D'après cette rumeur, ma mère se serait fait engrosser par un étudiant en médecine dans une fête ou quelque chose comme ça. Donc de là, évidemment, viennent, étant une grande habituée des pensées morbides, la multiplicité des scénarios catastrophes potentiels, allant jusqu'au viol, bien entendu. Et de là, j'écris un livre qui se passe à moitié dans un cimetière, à moitié dans ma vie, pour m'en sortir un peu et voir plus clair, quoi.
J'étais avec ma petite amie de l'époque, on était en balade, et elle était devant moi. Et en fait, je voyais ses fesses qui bougeaient avec les mouvements du vélo, je trouvais ça joli. Donc, j'avais voilà, 19 ans, je la trouvais érotique, je trouvais ça beau, j'étais amoureux, quoi. Et à ce moment-là, je pile. Vraiment, je pile, elle est devant moi, et elle file un peu. Et au bout d'un moment, elle sent que je suis plus derrière elle, quoi. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Et je lui dis, bah, mon père n'est pas mon père. Elle comprend pas, quoi. Elle me dit, comment ça, ton père n'est pas ton père? Bah, mon père n'est pas mon père. Il y a eu une révélation, c'est assez. Je l'ai vraiment nommé, moi, ainsi. C'est-à-dire que ça a fait. C'est assez particulier parce que j'avais pas non plus un rapport, on va dire, religieux aux choses. Mais c'est le mot qui m'est venu et c'est la sensation vraiment que j'ai ressentie, quoi. Et il y a quelque chose en moi, à cet âge-là, à 19 ans, qui fait que bah, je baisse une défense que j'ai dû toujours avoir. Et il y a un effet de révélation par effet d'accumulation de signes, en fait, qui m'ont été laissés. Parce qu'il y avait des signes qui ont toujours été là, sans que ça avait été jamais dit frontalement par mes parents, soit consciemment, soit inconsciemment, quoi. Moi, c'est Nicolas, mais j'ai 41.
J'ai grandi auprès de mon grand-père, qui a été ma figure paternelle, un homme très très important dans ma vie. Et j'avais également un beau-père, voilà, qui vivait avec moi et ma maman, jusqu'à mes 20 ans. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui a toujours fait partie de moi. Évidemment, il y avait toujours cette colonne vide. Mais je restais dans cette position de me dire que c'était comme ça. Et que je ne voulais pas blesser ma maman en posant des questions, en remettant ce sujet-là sur le tapis, parce que toute petite, je ressentais déjà profondément que c'était une blessure en fait pour elle. Donc je suis Sonia, voilà, j'ai 34 ans et j'habite en Bretagne. J'ai grandi donc auprès de ma maman qui avait 20 ans quand je suis arrivée, puisqu'elle est tombée enceinte de moi donc à 19 ans. Et voilà, elle était toute jeune. Et j'ai grandi donc entourée de ma famille maternelle, donc mes grands-parents et aussi mes oncles et tantes. Voilà, donc j'ai vraiment grandi dans cette famille qui m'a entourée d'amour. Je ressentais en effet que je n'avais pas de père, enfin qu'en tout cas j'en avais sûrement un, mais je ne savais absolument pas où il était, s'il existait encore, voilà, je ne savais rien. J'avais toujours en moi ce questionnement, ce doute, ce manque.
Dans votre roman « Dans ma maison sous terre », il est question d'un cimetière et vous commencez par décrire une tombe qui est celle de votre mère.
Sonder la tombe de ma mère, c'était un peu comme plonger dans la douleur du deuil, du côté de mon inconscient vraiment, parce qu'elle est enterrée au-dessus d'elle et mort par la suite, mon grand-père. Donc elle a le corps de l'obèse alcoolique qui s'est caché dans les toilettes quand mon père la visait. Donc c'est toujours très bizarre d'avoir le poids de la lâcheté, de me dire que la lâcheté en décomposition dégouline sur ses os. C'est quelque chose qui pendant longtemps était assez insupportable en fait. J'aurais préféré qu'elle soit enterrée ailleurs. C'est bizarre d'ailleurs de garder un contact affectif avec une dépouille, mais dans le cas de ma mère, je crois que c'est le cas. Je vais très peu sur sa tombe dans son cimetière parce qu'il est en banlieue lointaine et que la tombe est très triste. Et le fait qu'il y ait grand-père dessus m'est insupportable. En fait, il y a la grand-mère aussi désormais par-dessus en plus. Donc c'est vraiment la notion de caveau familial. Il n'y a pas moyen d'avoir un rapport psychique ou sublimé interpersonnel en fait, du coup ça casse tout, ça salit. La pulsion suicidaire était beaucoup reliée à l'idée de me retrouver tout contre elle. Il y avait quelque chose comme ça, comme si en fait j'avais pas eu ma place auprès d'elle parce qu'on me l'avait enlevée et que du coup je voulais rattraper ça d'une autre façon, ce qui n'était pas très pratique d'un point de vue existentiel. Mais mes livres m'aident toujours à faire de la résilience quand même. Même si c'est pas étudié pour, j'essaye de faire de la littérature pour de la littérature d'abord. Il y a toujours une dimension psychanalytique malgré moi. Enfin, dans ma maison sous terre, dans ce livre-là, c'est très assumé. Il y avait vraiment la décision d'en terminer avec la lignée, d'enterrer définitivement l'identité dans le caveau familial. Après, il y a eu réinterrogation, on va dire, de la lignée. Je suis partie au Liban quelques années plus tard pour vérifier ce qui se passait du côté paternel. Et ça, c'est encore une autre histoire.
Extérieurement, ma vie se déroulait, et elle se déroulait très bien même. J'étais une petite fille, vraiment joyeuse, qui ne fait pas de vagues. Je grandissais, j'étais heureuse. Je pense que cette histoire de vie m'a amenée à être très tôt une petite fille qui avait de fortes émotions et qui, quelque part, toute seule, en s'enfermant dans sa chambre, avec de la musique et en dansant, essayait en fait de les traverser. Sans pour autant aller ruer dans les brancards, sans pour autant aller questionner.
Mais intérieurement, qu'est-ce que vous imaginez ?
Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ma maman a conçu un enfant, donc c'était moi, voilà, avec quelqu'un avec qui elle n'est pas restée? Pourquoi lui est parti? Est-ce qu'elle l'aimait? Est-ce que lui, il l'aimait?
Franchement, à 9 ans, de pouvoir demander à ses parents, c'est impossible. Vers 8-9 ans, j'ai des cauchemars qui sont suffisamment forts pour me réveiller. Et avec ma mère, souvent qui vient, pour essayer de me calmer. D'ailleurs, à tel point que je pense que j'ai été troublé lors de l'année de mes 9 ans. C'est aussi l'année où je change de nom. Parce que mes parents, à la suite de la naissance de mon frère, vont le baptiser et dans la foulée, vont se marier. Donc je passe du nom de jeune fille de ma mère au nom de mon père. Et en fait, j'ai eu dans mes mains ce que j'ai donné à l'école, mon extrait d'acte de naissance. Et sur l'extrait d'acte de naissance, c'est très clair. Normalement, mais je ne savais pas comment ça fonctionnait à 9 ans. Donc un acte de naissance. Mais mon père arrive plus tard. En gros, ma mère m'a déclaré seul. Mon père était déjà là. C'est-à-dire qu'il se séduisait déjà par les ancêtres de mythique, etc. Je crois que ça s'appelait mariage chrétien. Il se séduisait déjà par l'être interposé, alors qu'il y avait encore l'autre homme qui était là. C'est-à-dire le géniteur. Donc du coup, mon père, celui que j'appelle mon père, hein, c'est l'homme qui m'a élevé, qui m'a aimé, et donc qui était déjà là. Mais sauf qu'il y a un choix que je ne sais pas qui a été fait, ou un non-choix, un événement. En tout cas, lui n'a pas endossé un rôle de père. Il m'a pas reconnu. Donc ma mère m'a reconnu seule, mais très vite, on voit que mon père a reconnu, mais c'est pas la même date. Ça aurait pu me mettre la puce à l'oreille.
Il y a eu des petites étapes, de temps en temps, surtout à l'adolescence. Voilà, par exemple, le fait de regarder un album photo, de trouver une photo d'un homme, donc une photo assez vieille, hein, d'un homme qui me portait. Voilà, j'étais toute petite, et là je me dis, mais qui est-ce ? C'est peut-être lui, c'est peut-être pas lui. De ne pas oser poser la question à ma maman, mais de me balader avec cette photo dans la poche, par exemple. Et puis finalement, c'était mon beau-père qui trouvait la photo. Donc là, j'ai entendu une conversation compliquée entre eux.
J'ai des souvenirs d'engueulade, en fait, petite devant moi, où j'étais sûr que j'étais l'objet. C'était moi et l'objet du géniteur, très certainement. Parce que j'ai pu être surnommé, mon père, voilà, dans la façon dont il avait détourné, il me surnommait comme le nom de mon géniteur que j'ai su après, devant ma mère. Ou, vu que c'est un prénom composé, par la première partie du prénom composé et mon prénom à moi.
J'étais un peu aux aguets. C'est-à-dire que lorsque j'entendais, par exemple, mon grand-père discuter avec ma maman, par exemple, il y avait un jour un article de journal, il lui a dit « Tiens, tu as vu qui est sur cet article ?» Et moi, toute petite, de dire « Mais c'est qui ?» Et de ne rien entendre en retour. Donc là, forcément, voilà, ça questionne, mais je m'arrêtais là. En fait, je sentais que c'était compliqué, que ça blessait. Donc je m'arrêtais là. Mais intérieurement, moi aussi, j'étais blessée.
Le déni familial et mon propre déni, mon propre mécanisme de protection devait jouer aussi. Parce qu'on ne comprend pas. Je ne veux pas savoir, moi, que ça existe des situations familiales où mon père n'est pas mon père. C'est lui qui m'a engendré dans ma tête, vous voyez. C'est lui, je l'ai toujours vu. Donc il n'y a pas de trouble pour moi dans la façon dont je suis à ce moment-là. Le trouble, il est fait par les parents qui s'engueulent devant moi.
Mon grand-père a été vraiment une figure masculine essentielle, voilà. De par le regard qu'il portait sur moi, toujours positif. Toujours constructif, et ce n'est d'ailleurs pas pour rien que c'est à sa mort que j'ai enfin réalisé que je pouvais poser des questions et connaître peut-être mes origines. Mais jusque-là, peut-être que j'avais ce qu'il me fallait. Le jour où mon grand-père est mort, ça a déclenché un tournant, en fait.
Alors mon père serait médecin et ma vie serait quelque part dans un ailleurs plus que lointain. Beyrouth ou une banlieue boisée. Paris peut-être. Paris sûrement. J'aurais eu une enfance dorée, mais parasitée par la guerre. Je n'aurais pas connu les coups, la terreur et la maltraitance. Juste la musique des obus et la valse des francs-tireurs. Pour mes 10 ans, papa-maman m'aurait fait souffler les bougies d'un gâteau à 30 parts, couvert de chantilly. En juin, ma robe ne rougirait pas. Et jamais sous la plante de mes pieds, je ne sentirais de verre blanc. Mes cauchemars seraient quelconques, avec des monstres dedans. Mes parents s'aimeraient d'un amour qu'ils auraient sûrement négocié, mais qui se développerait sans heurts. Il m'appellerait mon chéri, ma douce, mon cœur et sourirait. J'aurais suivi les statistiques et effectué de longues études financées par ce qui serait mon père. Mes fréquentations composées de fils d'eux et de jeunes aisés m'auraient fait aimer Brasillac, les clubs branchés et la vodka. J'aurais eu des chagrins d'amour, mais sans le syndrome d'abandon qui me grignote tout l'intérieur. Je serais de la race des insouciantes, je n'aurais pas plus d'esprit qu'un miroir. Je serais une créature sociale qui affectionne les fêtes et son groupe de copines vénérant Saint Gucci. Je serais professeur de lettres, mais à la fac, mieux que ma mère. J'aurais appliqué la formule chère à ma famille maternelle qui veut que les enfants gravissent un échelon supérieur. Je serais la fierté de tous, la grand-mère me le répéterait. Le jour, je donnerais quelques cours, le soir, je masquerais mon ennui, le week-end, j'emplirais secrètement mes narines d'une cocaïne d'excellente qualité. Je n'aurais pas le même patronyme, et encore moins le même prénom. J'ignore ce qui me serait attribué. Je n'aurais pas à être sauvée, aussi j'enseignerais le mot littérature sans jamais l'avoir rencontré. J'avais beaucoup de mal à accepter la place à laquelle je me trouvais, puisque je savais pas si c'était la mienne ou pas. Donc c'était extrêmement déstabilisant au quotidien. Ça m'obsédait complètement.
Je pense que j'avais en moi de la culpabilité. Comme si c'était de ma faute tout ce qui arrivait. Comme si sa vie avait été transformée. À un moment donné, étant adolescente, j'ai même pensé que sa vie avait été gâchée par mon arrivée. Voilà, je me suis vraiment positionnée en me disant « Je vais garder pour moi tout ce qui me traverse, tout ce qui est compliqué. Je vais essayer de lui apporter de la réussite. » Voilà, qu'elle est une fille qui réussit, qui ne fait pas de vagues. Mais à un moment donné, forcément, ces choses-là, ça pousse, et il faut que ça prenne forme. Je pense quelque part qu'il y avait une colère, oui. Mais vraiment une colère contre le vide, le non-dit. Voilà.
Oui, enfin c'est un bureau où on fait des consultations familiales.
Serge Tisseron, psychiatre, psychanalyste.
Au début de mon adolescence, je bannis de mon langage les expressions « papa » et « maman » pour ne plus appeler mes géniteurs que par leur prénom, Max et Aline. J'avais décidé de les considérer comme deux reclus heureux de leur sort dont je devais me tenir éloigné afin de ne pas intérioriser leur prison mentale. Ma liberté était à ce prix. Il ne suffisait pas que je quitte leur maison, il fallait aussi que je me dégage du monde étroit et sombre dans lequel ils m'avaient englué. Cette prise de distance fut incontestablement facilitée par le dessin. Ce que l'on ne peut pas dire, rien n'empêche de le dessiner. Je me représentais mon père comme un poisson rouge tournant en rond dans son bocal, protégé du monde par la paroi de verre qui l'en séparait, et ma mère comme un petit cochon rose. Le dessin m'a toujours accompagné, puisque dans ma famille, c'est peu dire, si j'ose dire, qu'on parlait peu, on parlait pas du tout, de rien, voilà. C'était avant la télévision, donc la télévision a combler une place vacante, celle d'un discours pendant les moments où la famille était réunie. Vous savez, il y a un certain nombre de gens qui ont dit « Oui, mais la télévision empêche les familles de parler. » Dans ma famille, la télévision ne l'a pas empêché de parler. Elle a pris une place totalement vacante. J'étais donc très solitaire. Il n'y avait pas de livre non plus. En revanche, je passais beaucoup de temps à dessiner. Et dessiner m'a véritablement permis de commencer à penser. Quand on n'a pas de mots pour commencer à penser, pour commencer à se représenter des situations personnelles ou des situations sociales, c'est toujours essentiel d'en avoir des images. Mes propres crises de colère, des mouvements affectueux ou des mouvements de rejet. Donc d'abord, il y a des gestes, des attitudes, des mimiques qui, dans ma famille, ne s'accompagnaient jamais de mots. Et puis, il y a des images, celles que je me fabriquais dans mes bandes dessinées, qui me permettait de commencer à avoir aussi des représentations mentales, imagées. Et puis, dans un troisième temps, il y a les mots. Mais dans mon histoire, vous voyez, j'ai laborieusement franchi ces trois étapes successives. Les mots sont arrivés assez tard, hein, finalement.
Comme je vous disais, justement, il y a eu ce que j'appelle des décompensations, très clairement. Notamment une très forte, où j'ai à 18 ans. Mais d'abord, je vais voir un médecin généraliste. Je ne sais pas qui aller voir, d'ailleurs, le médecin généraliste de mon village. qui, je vois, il écrit une petite lettre. Et vu que j'étais encore dans mes modes décompensation, paranoïa, crise, etc., qu'est-ce qu'il écrit, quoi ? Et c'est hyper inquiétant pour moi. Et du coup, il fait une recommandation. C'est-à-dire, je lui décris, moi, les symptômes. Lui fait une recommandation au psychiatre. Je vais voir le psychiatre qui me met, en fait, sous médicament. Donc, je suis d'abord traité. J'entame un peu une thérapie. Et en fait, très vite, j'arrête. Je me sens pas bien, il est pas en confiance, etc. Donc, je comprends pas. C'est-à-dire que tous mes symptômes, pour moi, je suis fou. C'est-à-dire que je suis en train de péter les plombs. Je suis en train de devenir paranoïaque. Je suis en train de me déconnecter de la réalité. Je sais pas, il y a des endroits de bonheur quand même, mais c'est horrible de devoir lutter avec une sorte de démon, de choses rampantes en soi qui va faire douter de tout. Et on doit rester accroché, de dire j'ai pas pété les plombs. Donc, je sais que c'est là, je lutte, mais je lutte pas vraiment contre. Quoi. Et il y a ce moment de révélation, vraiment, je pile. Et bah ouais, ça fait. Le fait de verbaliser que mon père est pas mon père, c'est une clé de voûte explicative de fou. Ça explique tout, quoi. Ça explique 19 ans de vie, quoi. Et là, tout d'un coup, je deviens détective.
J'imagine que peut-être mon père existe en France ou au Liban, que mon père n'est peut-être pas libanais, je suis pas si typée que ça, me dis-je, que mon père est peut-être actuellement médecin et propriétaire d'une maison et de 3 enfants. Je me mets à imaginer aussi que peut-être en expliquant mon histoire dans un livre, le livre arrivera jusqu'à lui et je retrouverai mon vrai père. Enfin, je me fais tous les tripes de des secrets de famille, des secrets de naissance, de tout ça. Ça met du temps. Je suis vraiment pas bien à ce moment-là. Il y a vraiment un problème identitaire très net. J'essaye de me dire que justement, l'entité personnage de fiction écrivant Chloé Delhomme n'a pas à être touchée par les aventures de Nathalie Dallin. Mais ça ne marche pas du tout. J'ai passé beaucoup de temps dans les cimetières à ce moment-là. Il y avait quelque chose de l'ordre du secret des morts chuchoté, de quelque chose qui fait que, comme si j'allais jamais avoir accès à la vérité. La vérité m'était arrachée à jamais, le père et la mère étaient morts, il restait plus personne pour témoigner. Et en même temps, il y avait quelque chose de sordide dans ce secret-là à cause d'une chanson, qui est que la chanson favorite de ma mère pour se trémousser avec moi quand j'étais petite, c'était « Scandale dans la famille », qui finit par « Ton père n'est pas ton père et ton père ne le sait pas ». Et d'un seul coup, ma mère m'apparaissait comme un monstre de perversion. C'était aussi toute l'identité de la mère qui s'effritait à cause de ça, à cause de cette chanson. Et du coup, mon père l'avait toujours su, ou venait de l'apprendre, ou c'en était trop, et que c'était parce que j'étais pas sa fille qui tuait ma mère, enfin, qui avait plus de raison de la conserver. Il y avait comme la notion d'humiliation. Je me demandais s'il savait. S'il savait, ça expliquait qu'il me foutait autant sur la gueule. Enfin, il y avait plein d'éclairages que ça amenait, le fait que je sois pas sa fille légitime. Tout ce que ça impliquait, ça... C'était abyssal comme conséquence, vraiment. D'un côté, il y avait quelque chose de libérateur à se dire que j'étais peut-être pas pleine de gènes tout pourris, que mon père avait pas... il n'y avait pas de mon père en moi, donc du coup, j'étais pas soumise au dessein de folle, quoi, parce que c'est quand même très compliqué d'être la fille... de quelqu'un qui pète un plomb à ce point-là, et puis c'était quelqu'un de violent, de vraiment profondément violent, donc c'était soulageant de se dire que peut-être que je portais pas cette violence en moi. Après, la question, c'était d'où vient-elle dans ce cas. Il y avait aussi la question du nom, parce que la légende familiale côté paternel est très lourde. Mon père s'appelle Selim Abdallah, c'est le frère de Georges Ibrahim Abdallah, c'est les fractions armées libanaises. C'est des combattants, ça veut dire des attentats, ça veut dire aussi toute une légende politique sanglante qui n'était pas facile à endosser petite. C'était compliqué de se dire qu'il fallait faire sans, mais du coup faire avec quoi à la place ? Et le faire avec quoi, je savais pas. Je savais pas où chercher. J'allais pas mettre une annonce pour aller trouver dans Beyrouth un type qui aurait sauté ma mère en 72 dans une fête étudiante. Je veux dire, tout ça n'avait pas de sens. Et du coup, se retrouver amputé de ce qu'on pense être une gangrène, c'est très très bizarre.
Mon père avait d'immenses qualités, hein, de générosité, mais il est resté, je crois, toute sa vie prisonnier du traumatisme, hein, qu'il avait frappé quand il était enfant. Et toute sa vie, comme beaucoup de gens qui ont été frappés par un traumatisme quand ils étaient petits, toute sa vie, il a continué à imaginer que ce traumatisme allait se reproduire. Il s'agissait d'une situation, hélas, relativement banale, hein, dans cette époque de bouleversement technologique important dans les années 1930-1940. Son père était charron, donc il fabriquait des charrettes. Et puis, comme chacun sait, il y a un moment où les automobiles ont commencé à se développer. Et puis, il y a probablement des charrons qui ont senti le vent venir et qui se sont intéressés aux roues des voitures, aux pneus, aux véhicules automobiles. Mais, semble-t-il, mon grand-père, le père de mon père, n'a pas été capable de faire cette évolution. Et il s'est retrouvé ruiné en quelques années. Il était charron dans un petit village de l'Ardèche. Il a dû émigrer vers la ville, hein, comme beaucoup de gens ruinés dans les campagnes. Et là, il est devenu un ouvrier parmi les autres ouvriers. Et lui qui avait un poste important dans son village, qui connaissait tout le monde, qui était connu de tout le monde, s'est retrouvé à la ville avec un bleu de travail d'ouvrier, contraint à des actes répétitifs qui ne tenaient pas compte de toutes les compétences qu'il avait acquises pendant son activité professionnelle de charron. Et puis ma famille s'est retrouvée marginalisée dans un appartement assez misérable, ne connaissant personne, n'ayant pas de réseau social. Donc cet effondrement social, hein, et cet effondrement en même temps de la figure de mon grand-père a été pour mon père un traumatisme majeur dont il s'est jamais remis. Il a évidemment continué à craindre toute sa vie qu'un traumatisme semblable arrive. Mon père s'est toujours attaché à être fonctionnaire, à ce que ses enfants soient fonctionnaires, et puis il s'est toujours attaché aussi à ne pas chercher à avoir un poste important qu'il pourrait perdre un jour. Et c'est là que j'évoque cette histoire d'aquarium, hein, c'est-à-dire cette histoire de bocal dans lequel tourne le poisson rouge. Il s'était enfermé lui-même dans un système dans lequel il était dangereux de sortir.
Juste après la mort de mon grand-père, j'ai fait un premier essai d'aller questionner ma maman. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs au téléphone, je l'ai questionnée en pleurant. Et à ma grande surprise, là où je m'étais toujours imaginé que ça allait être une montagne, que ça allait être catastrophique, qu'elle allait m'en vouloir, qu'elle allait être blessée. Lorsque je lui ai posé cette question, en pleurant, elle m'a répondu de façon très simple. Voilà, elle m'a simplement expliqué qu'elle avait rencontré quelqu'un qu'elle avait beaucoup aimé et que ça s'était arrêté là, dans leur relation, et qu'ensuite, voilà, elle avait découvert qu'elle était enceinte, qu'elle m'attendait, et que lui n'avait absolument pas voulu ni que leur relation se poursuive, et encore moins reconnaître que c'était mon père. Voilà, qu'il était reparti sur Paris, qu'il était très jeune, très décontenancé par cette annonce, hein, qu'elle soit enceinte de lui. Voilà, qu'il avait probablement actuellement encore sa famille, donc une compagne, et peut-être même deux filles. Voilà ce qu'elle m'a dit à l'époque. Et ça s'est arrêté là. Je pense que j'ai cru à l'époque que ça suffisait.
Si on commençait à parler, on risquerait de s'effondrer. Ça, c'est une idée que j'ai toujours mise en avant dans tous mes travaux, dans toutes mes publications, dans toutes mes conférences sur les secrets de famille. C'est qu'il ne faut jamais forcer quelqu'un à parler. Parce qu'on ne sait jamais si quelqu'un qui ne parle pas d'un événement important qu'il a vécu n'en parle pas parce qu'il a décidé de ne pas en parler. Ou bien si peut-être il n'en parle pas parce qu'il est véritablement dans l'impossibilité d'en parler. Si on l'y oblige, qu'est-ce qui risque de se produire? Ce qui risque de se produire, c'est qu'il va retrouver les sensations, les émotions, les états du corps, les souffrances qu'il a vécues au moment de ce fameux événement traumatique. Et au lieu d'avoir affaire à quelqu'un qui nous raconte ce qu'il a vécu, on va avoir affaire à quelqu'un qui s'effondre. Si j'avais voulu précisément comprendre ce que mon père avait vécu, probablement j'aurais provoqué un effondrement de mon père. Ma mère, un peu au courant de ce qu'avait vécu mon père, aurait pu m'en parler, peut-être, mais elle ne le pouvait pas plus parce que elle-même était marquée aussi par un traumatisme familial grave, hein, et du coup, mes deux parents avaient établi une sorte de complicité de silence. Il arrivait qu'on feuillette un album de famille, c'était très énigmatique, il n'y avait pas vraiment d'explication sur ce qu'on voyait. Parfois on nous disait, on ne sait pas trop, on ne comprend pas, tiens, ça, on ne s'en souvient pas, c'était compliqué, tu sais. J'ai beaucoup entendu ça dans mon enfance. C'était compliqué, tu sais. Et puis quand j'ai grandi, ma mère avait une autre phrase, elle me disait « Ne te fais pas plus bête que tu n'es, tu comprends très bien. » Je ne comprenais rien du tout, mais j'ai compris que je devais comprendre par mes propres moyens. Alors, ça a eu un avantage, c'est que du coup, je suis devenu très curieux de tout, voilà. Mais ça a eu un inconvénient, c'est que du coup, j'ai renoncé pendant très longtemps à poser des questions.
Moi, je suis déjà à Nantes, à l'université de Nantes, pour avoir commencé mes études de sociologie. Puis je reviens pour voir mes frères et sœurs. Puis au bout d'un moment, vraiment, je suis limite à rompre avec mes parents. Voilà, c'est à un moment donné, je reviens pas souvent. Et là, ça doit être l'été, je pense. En tout cas, pareil, il fait beau. Ma mère est dans le jardin. Et mon père dit, on va faire une balade en forêt avec les petits. Est-ce que vous venez? Ma mère dit non. Elle dit non. Et là, je me dis, j'ai un créneau. Et donc, ce créneau, elle fait des mots croisés. Elle est sur sa petite chaise, je prends mon courage à deux mains, parce que c'est en gros la question, enfin, de ma vie, quoi. Et donc, du coup, je lui demande, maman, est-ce que papa est mon père? Et là, direct, elle dit non. Moi, j'accuse un peu le coup, quelques secondes, hein, et je lui dis, mais donc, qui est mon père? Comment il s'appelle? Donc, elle le nomme. Là, je comprends, du coup, qu'effectivement, je me rappelle des surnoms que pouvait me donner mon père, les jeux entre, un peu malsains entre mon père et ma mère, pour pousser ma mère à dire, leur jeu de couple, quoi. Et je me dis, ok, d'accord, c'est clair, quoi, je l'ai déjà entendu, ce nom. Je l'ai déjà, même le nom de famille, j'ai déjà entendu. En fait, il n'était pas inconnu, quoi. Il était dénié par eux et par moi, mais il n'était pas inconnu. Et je me dis, qui il était, qu'est-ce qu'il faisait, il travaillait sur les plateformes pétrolières, il était ingénieur de forage. Voilà, et elle me dit, il est venu te voir à la maternité, mais il n'a pas voulu être ton père, et je connaissais déjà ton père par ailleurs. J'avais pas beaucoup de temps, je devais digérer la chose. Je vois depuis rarement ma mère seule. Moi, je me suis longtemps raconté que mon géniteur m'a abandonné. C'est pas pareil. Si ma mère ne voulait pas de lui dans sa vie, et voulait faire un bébé et était déjà amoureuse d'un autre homme qui est devenu donc mon père, que de me dire il m'a abandonné ce géniteur. C'est pas la même histoire du tout. D'être issu d'un abandon, c'est pas la même chose que d'être issu d'un amour. Et ma mère a voulu de moi avec un autre homme. Et moi, ce que j'ai trouvé dur à ce moment-là de la part de ma mère, elle me dit j'espère que ça ira mieux. Et là, je me suis dit d'accord, ok. Donc en gros, c'est moi le problème, encore une fois, pour elle, à ses yeux.
Sylvain n'est pas ton père était juste une invention de la grand-mère. Elle voulait que je lui reparle. Pour ça, fallait qu'elle frappe fort. Et comme elle était complètement cintrée, il n'y a que ça qui lui est venu à l'esprit, quoi. Me dire que mon père n'était pas mon père et qu'elle détenait le secret, qu'elle était dépositaire du secret de ma naissance. Elle s'est dit qu'avec ça, ça me ferait accourir. Ça n'a pas vraiment marché. Du coup, j'ai écrit un livre pour la tuer. Elle a mis 2 ans à mourir, donc le livre n'y est pour rien, malheureusement. C'était une créature extrêmement autocentrée, frivole et coquette, mais surtout toxique, qui a fait beaucoup de mal à ses filles, qui a fait beaucoup de mal aussi l'année où j'étais chez elle, très rabaissante, très déstabilisante, très écrasante.
Alors que vous veniez de perdre vos parents?
Oui, alors que je venais de perdre mes parents, mais comme elle venait de perdre sa fille, c'était beaucoup plus important, donc ça devait prendre toute la place, en fait. Elle égrenait son deuil dans les pièces, en faisant des simagrées à longueur de journée. C'était une drama queen, mais pas dans le sens sympathique du terme. Ça faisait des années que j'avais pas eu autant de pulsions suicidaires qu'à cette époque, quoi. J'ai vraiment failli y rester. Heureusement que vers la fin, j'avais un mari à cette époque-là et des amis très proches. Et du coup, j'ai pu être bien entourée au moment où l'information me grignotait vraiment trop le soma. Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, ça m'a vraiment fait péter un plomb. Et c'était lent, très lent comme processus. Mais oui, elle m'a mis en danger de mort. Enfin, pour moi, c'est clair, quoi.
Il faut bien comprendre qu'un enfant qui grandit dans une famille à secret, les histoires qu'il se raconte, il n'en a jamais de preuves et il doit les prendre comme telles, comme ce qu'on peut appeler une sorte de romans familiaux. Des romans familiaux organisés à partir d'un secret, mais des romans familiaux tout de même, parce que la vérification de l'hypothèse est souvent impossible. quand je me suis engagé dans la psychothérapie de gens qui avaient beaucoup souffert de secrets de famille, j'ai compris que c'était important de leur permettre de parler d'événements relativement anodins, mais d'événements à travers lesquels, petit à petit, ces personnes se familiarisaient avec le fait de pouvoir se représenter leur tristesse, leur souffrance, leur amertume, leur honte, à travers une coupe de cheveux ratée, la mort d'un animal domestique, un accident de voiture, des petits événements qui semblaient n'avoir aucun lien avec le secret de famille pour lequel ils étaient d'abord venus me consulter. Mais en travaillant sur ces petits événements, je m'étais rendu compte qu'on renforçait chez ces personnes la capacité de se confronter un jour à cet événement traumatique majeur dont ils n'étaient jamais arrivés à parler. Alors, cette violence du côté de mon père, j'en ai partiellement parlé, du côté de ma mère, c'est beaucoup plus compliqué. En revanche, la violence que j'éprouvais, elle était liée à quoi ? Ben, elle était liée à la honte, hein, d'abord. Ma famille était marquée par la honte. Mon père a voulu très vite que toutes nos fenêtres soient recouvertes de rideaux sombres. Il ne fallait pas qu'on nous voie, comme si nous avions des choses extraordinaires à cacher. Mais c'était un reflet de son attitude mentale. Il ne fallait pas qu'on voie ce qu'il y avait dans sa tête. Et probablement, mon père était habité aussi par une très grande violence derrière ses comportements apparemment très altruistes, très généreux, désintéressés. Probablement, il était habité par une grande violence parce que la situation qu'avait vécue son père était effroyablement violente. Hein, la dégringolade de son père, cette humiliation publique qu'il avait vécue, qu'elle soit objective ou subjective, en tout cas c'est comme ça qu'il l'avait vécu. Mon père était marqué par la violence, ma mère était marquée par une immense violence qu'elle avait subie, avant de m'en faire subir à mon tour. Donc si vous voulez, ce qu'il faut comprendre, c'est que une personne qui a été malmenée, humiliée, violentée, porte en elle la violence. Et si elle ne reconnaît pas cette violence qu'elle porte en elle, tôt ou tard, elle l'imposera à autrui. Je me suis rendu compte qu'il y avait en effet énormément de violence dans mes dessins, une violence que j'avais oubliée. Et là, j'ai compris en effet que cette violence, j'avais trouvé le moyen de la dériver et que la bande dessinée m'y avait particulièrement aidé puisque la bande dessinée est narrative.
Là, ça s'est passé à peu près à l'âge de 25-26 ans. Je me suis aperçue que, ça peut paraître bête, mais que j'avais un père, qu'il était présent quelque part et que j'avais besoin de le connaître, d'en savoir plus. Et de là, mes démarches de questionnement auprès de ma maman se sont déroulées. Je lui ai dit que j'avais besoin d'en savoir plus et là, elle m'a donné tous les détails qu'elle pouvait. Son nom et son prénom, c'était déjà énorme pour moi. La ville dans laquelle il était censé encore vivre actuellement. Elle m'a donné des détails sur ses parents, à lui, donc nom, prénom, le fait qu'il vivait, ses parents, à 10 minutes de là où j'ai grandi étant enfant. Je ne le savais pas étant enfant. Je passais très très régulièrement devant chez eux, je ne le savais pas étant enfant. Eux le savaient, c'est très dérangeant, mais ils sont au courant. Oui, ils sont, parce qu'ils sont vivants, donc ils sont au courant de cette histoire. Ma maman, une fois, elle m'a prise par la main, elle m'a emmenée chez mon grand-père et ma grand-mère paternelle. C'est ma grand-mère qui lui a ouvert. Et elle a voulu lui montrer, peut-être en essayant de la toucher, en lui montrant sa petite fille. Et ma grand-mère aurait réagi en refermant la porte au nez de ma maman, en disant que de toute façon j'étais blonde, donc je ne pouvais pas être la fille de son fils. Et voilà ce qu'elle m'a expliqué. De là, j'ai percuté, je me suis dit, en fait, j'ai déjà vu mes grands-parents. Et puis voilà, j'ai pris conscience aussi que ma maman avait essayé. Elle a fait la même chose avec mon père. Un jour, il a fait semblant d'accepter de la rencontrer avec moi. J'avais 2 ou 3 ans. Elle avait pris la précaution d'être accompagnée par une amie à elle. Nous sommes arrivés dans un appartement où il était avec sa compagne de l'époque. Ils ont refermé la porte à clé derrière elle. Ils l'ont menacée. Ils lui ont demandé d'arrêter d'aller contacter ses parents à lui, que de toute façon, lui, il niait être mon père. Et lorsqu'elle m'a raconté ça, au fond de mes entrailles, je me suis dit, Mais je l'ai vu, en fait, mon père, étant enfant. Et je pense que c'est aussi cette étape-là qui a été déclencheur, où je me suis dit, mais il faut absolument que je le rencontre.
Je voudrais comprendre l'omission. Comment ça se fabrique, comment ça se conserve, comment ça se déploie. Pire qu'un mensonge en creux. Une trahison si sèche qu'elle vous écorche l'âme rien qu'en vous effleurant. Pourquoi elle n'a rien dit et qu'est-ce qui l'a amenée à la révélation? Attendre tant d'années pour lâchement faire tourner mon germe de bâtardise. Elle aurait pu avant, bien avant, tant de fois. En tête à tête aussi, oui, combien d'occasions. J'ai fait des TS, enfin des tentatives de suicide, souvent parce que mon père était mon père et que ce qui s'était passé m'était insupportable et que porter le germe de la maboulerie de monsieur m'était insupportable aussi. Ça m'aurait sauvée à ce moment-là, donc je comprenais pas pourquoi est-ce qu'elle avait gardé cette révélation qui, à certains moments, une décennie ou deux avant, aurait pu me sauver. Mais effectivement, dans la mesure où c'était une invention, ça risquait pas de sortir. Ma cousine a fini par m'informer que tout ça n'était pas vrai, mais que ça serait bien que je reparle à mamie Suzanne quand même, parce que pour qu'elle en soit rendue là, c'est qu'elle est très malheureuse. Ça a été bizarre parce que j'étais à la fois soulagée et en même temps j'avais l'impression que j'avais écrit le livre en mentant. Donc c'est comme si elle m'avait abîmé en plus un travail littéraire, puisque quand j'ai fait le livre, j'y croyais à fond. Et après, je me suis dit qu'il fallait quand même que je mène l'enquête, donc je suis partie au Liban, dans ma famille paternelle, vérifier comment mes parents s'étaient rencontrés, vérifier à quoi ils ressemblaient aussi. Et puis là, j'ai eu une... ils sont très nombreux, ils sont 12, c'est une fratrie de 12 femmes et hommes. Et là, je suis tombée sur une tante qui s'appelle Jeanne d'Arc, tel est son vrai nom, et qui me ressemble physiquement, c'est assez effrayant. Donc déjà, d'un point de vue génétique, là, j'étais assez rassurée. Et rassurée en tout cas, j'avais une information ferme. J'ai eu la jeunesse de la rencontre de mes parents là-bas, j'ai rencontré des amis qu'ils avaient, j'ai pu reconstituer comment, par qui, quand, et du coup être certaine que mon père était bien mon père, même si effectivement on peut rêver meilleur géniteur.
J'ai jamais eu de doute sur mon père. Le doute n'était pas sur la paternité, il était sur le secret, plutôt tenu par ma mère. En gros, mon doute était sur l'altération de la réalité, sur le trouble de l'origine. L'idée d'être reconnu qu'on a un trouble dans les origines et l'idée de renaître. Mais c'est aussi réhabiliter tout le monde, quitte à réhabiliter le côté plus obscur de ma mère. Ça avait déjà commencé la réhabilitation de mon père. Et une fois, mon père vient me chercher à la gare routière, à 11 km de chez eux. Je sais pas comment ça vient. On parle de mon frère et je lui dis, mais de toute façon, toi, je dis à mon père, t'as toujours préféré l'ami de tout le monde, des autres frères et sœurs. Et en gros, il comprend ma question. C'est-à-dire que mon père, nous, on se parle souvent, on voit détourné. Enfin, moi, je suis plus direct, mais lui, vous comprenez, il me parle plutôt de façon détournée. Et là, il comprend le sens de ma question. Il me dit, mais tu sais, moi, je voulais pas de deuxième enfant. Et là, il me dit vraiment, en fait, je t'aime ou quoi. Et c'est un truc de dingue, c'est ce qu'il dit. Il comprend ma question. Pour une fois, mon père fait pas semblant de pas comprendre, etc. C'est sa méthode où il met pas un déni, il met pas un masque. Il comprend ma question. Tu sais, moi, je voulais pas de deuxième enfant. En gros, tu me suffisais. Il est en train de dire, c'est ta mère. Et là, je me rappelle ma mère qui exige un deuxième enfant de mon père. Donc, qui dit ce que je lui suffisais. Ouais, ça a été une reconnaissance. Une reconnaissance hyper forte.
Un jour, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé, et il y a la voix de cet homme qui est mon grand-père paternel. Je lui dis, voilà, je suis Sonia. Je pense que vous savez qui je suis. Et là, c'est le silence. Et là, j'ai d'abord un homme qui, bien évidemment, perd un peu pied, qui essaie de nier. Et au bout d'un moment, cet homme, je le sens pris d'émotion. Donc il finit par me dire que tout ça, ce n'est pas vrai, et il raccroche. En fait, je n'avais rien à perdre. Donc quand j'ai rappelé une seconde fois, je lui ai tout de suite rappelé que j'avais le droit de savoir. Quand j'ai rappelé, je suis tombée sur sa femme, donc elle m'a raccroché au nez. Donc je ne pouvais même plus avoir accès à mon grand-père paternel. Donc je lui ai écrit. Et ensuite, j'ai rappelé. Et je pense qu'à un moment donné, ça a fait son chemin. Et un jour, mon père biologique m'a appelé. Très froid, très rapide, très angoissé. Il m'a expliqué que pour lui, il n'était absolument pas mon père, que ma mère m'avait probablement menti. Je lui ai dit, écoutez, dans ce cas, vous ne verrez pas d'inconvénient à ce qu'on fasse, par exemple, un test de paternité. Ça ne regardera personne d'autre que vous et moi. Il m'a raccroché au nez. Je lui ai écrit en envoyant ce courrier à mon grand-père et en lui demandant de transmettre. Dans cette enveloppe, il y avait donc une lettre et j'ai mis une photo de moi. Parce que ma mère m'avait toujours dit que je lui ressemblais beaucoup. Pour essayer d'aller le faire percuter un petit peu. Allez, on va lui mettre une photo. Et il m'a rappelé. Et là, il m'a dit, écoutez, pour clôturer les choses et pour que vous arrêtiez de contacter mes parents, j'accepte de vous rencontrer. Et là, dans ce que je vous dis, me revient l'étape essentielle. C'est qu'avant d'en arriver là, j'ai rencontré mon grand-père paternel. Puisque les choses ne bougeant pas, et mon grand-père paternel m'ayant dit qu'il voulait respecter ce que son fils voulait, je me suis dit, qu'est-ce qu'il me reste ? Je prends un billet de train de la Bretagne jusqu'à ce village dans le nord. J'ai choisi un jour, au hasard, le 12 novembre. Je me suis présentée devant leur porte et j'ai frappé. Et c'est une dame, donc ma grand-mère, qui m'a ouvert. Je me suis présentée. Et alors là, c'est très comique parce qu'elle a été en même temps décontenancée et en même temps très simple. Oui, mais qu'est-ce que vous venez faire là ? Je lui ai dit que je voulais simplement leur parler et je lui ai demandé si son mari était là. Et là, vous avez 30 ans, 31 ans, et elle vous dit « Écoutez, restez là, je vais le chercher, il est dans le jardin. » Je me suis assise en face de lui. Mon grand-père paternel m'a dit « Bah, écoutez, vous tombez plutôt bien ou mal, je ne sais pas, mais c'est mon anniversaire aujourd'hui. »
J'ai pas pu parler à mon père sur sa tombe. Parce que dans le village où ils sont enterrés, les corps sont dans des linceuls mis les uns sur les autres au fond du caveau. Il n'y a pas de cercueil. Et moi, j'avais fantasmé pendant toute ma vie le moment où j'allais être sur la tombe de mon père enterré seul. Or, il était dans le caveau familial. On ne peut pas avoir un rapport interpersonnel au Liban, même avec les morts. On appartient à une famille, qui appartient à un groupe, qui appartient à une obédience. C'est les poupées russes du collectif. Donc du coup, j'étais très frustrée par ce voyage au Liban. Et en même temps, le puzzle était fini, quoi. Disons que maintenant, j'ai plus du tout de problème sur ma lignée, ma famille, le d'où je viens. Les ponts sont coupés partout, soit, mais au moins, je sais de quoi je suis constituée et je fais avec, sans zone d'ombre, ce qui est le principal.
Vous auriez aimé lui dire quoi à votre père sur sa tombe ?
J'ai écrit une lettre que j'ai mise dans un livre dont je me souviens succinctement que finalement je le pardonne, quoi. C'est important d'être en paix avec ses fantômes à un moment donné. Je ne serais pas devenue qui je suis s'il n'avait pas fait ça. Donc j'ai pas à le remercier, bien entendu, mais en tout cas lui pardonner le geste et le comprendre, je crois. C'était important.
C'est très fort d'avoir fait ce chemin-là.
En même temps, j'ai 46 balais, hein. Donc heureusement qu'à un moment donné, ça s'apaise, parce que sinon, je serais à l'HP en permanence. Donc comme j'ai pas pour appétence de finir mes jours à Sainte-Anne, en attendant l'EHPAD, hein, on va se tenir debout.
Maintenant, moi, je les ai réhabilités, parce que je leur en veux moins maintenant. J'ai 41 ans, ça a été l'enjeu de ma progression en tant qu'individu. Et quelque part même, j'ai envie de dire, ça me constitue. Quelque part, pas merci, mais presque, quoi, parce que... Je suis devenu la personne que je suis, avec mes colères, mes passions, mes formes d'empathie à moi, mes questionnements, le fait que je sois devenu sociologue, bah, c'est aussi ça. Et après, ce qui est dur, c'est que j'ai porté par contre beaucoup de choses que je n'avais pas apportées. Voilà, c'est moi qui ai dû faire un travail. C'est moi qui suis allé en psychanalyse, eux ne l'ont jamais fait. Vous voyez, donc j'étais un peu le symptôme de ma famille.
Mon père, biologique, m'a rappelé, en me disant qu'il acceptait de me rencontrer. Donc un jour de décembre, nous avions rendez-vous à Paris, ça je peux le dire. Voilà, j'ai pris le train, puis le métro. Nous avions rendez-vous à une station de métro bien particulière. Et là, je vois à ma droite, au loin, arriver un homme avec la tête un peu baissée qui portait une casquette Et j'ai compris que c'était lui. Nous nous sommes regardés. On s'est reconnus. Moi, je ne pouvais plus nier que c'était lui mon père, et surtout, lui qui l'avait tant nié. À cet instant, je pense qu'il ne pouvait plus nier que j'étais sa fille. Et de là, il m'a proposé une petite marche pour aller jusqu'à un jardin public où l'on s'est posé face à face. Et là, nous sommes restés à peu près une heure et nous avons discuté. La première chose qu'il m'a dite, c'est « Je pense que ce que vous avez besoin d'entendre, c'est que, aussi courte ait été la relation d'avec votre maman, vous venez d'une relation où il y a eu de l'amour. » Et là, je me suis sentie beaucoup plus remplie, beaucoup plus nourrie et quelque part apaisée. À la fin, nous nous sommes serrés la main. Et il a été très clair, par contre, en me disant qu'il ne souhaitait pas que ça aille plus loin.
C'est quoi la famille, votre famille aujourd'hui? Est-ce qu'elle existe?
Alors pour moi, toute cellule familiale est quand même un sujet à un tissu de névrose, donc je m'en méfie beaucoup. Non, ma famille, c'est une tribu, c'est le groupe recomposé. J'ai des amis très proches, j'ai une dizaine de personnes qui font famille, au sens où on peut entendre le mot famille. Après, j'ai pas souhaité en composer, bien entendu. Je suis nullipare, je n'ai pas d'enfant. J'ai un fonctionnement qui est en couple, mais j'aspire pas à me reproduire, à reproduire la névrose familiale qui rend prêt de toute façon, d'une façon ou d'une autre. Donc c'est aussi une façon d'arrêter tout ça que de pas se reproduire soi-même.
Je suis qui je suis, donc je vais pas refaire l'histoire. J'ai pu la réécrire en réhabilitant une partie de ce qui était caché de mes origines. Je vais continuer à le faire, je pense qu'un jour, je pense que je demanderai, et j'ai le droit, de demander à ma mère, alors réellement, est-ce que lui me voulait ou pas? Ou est-ce que c'est toi qui voulais pas qu'il soit dans ta vie? Donc c'est-à-dire qu'il voulait pas que ce soit mon père. Et un jour, j'aurais besoin, pour terminer peut-être de compléter la partie manquante, j'aurais besoin à un moment donné. Si je l'ai pas, c'est pas grave, hein, parce que ma mère, en gros, peut décéder demain, j'aurais fait 90% du boulot. Puis on dira, j'ai pas d'enfant, et on verra, quoi. Si un jour je veux des enfants, et si j'en ai, je pense qu'il y aura aussi quelque chose qui s'activera. Réellement. Et je voudrais un enfant issu d'un amour, clair. Avoir un enfant avec une femme que j'aime et qui m'aime. Et issu, ouais, de mes gènes, quoi.
Il y a une moitié de moi qui a pris sens. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, enfin depuis en tout cas, je pense que dans ma vie, tranquillement, peu à peu, je me complète en fait. Entière, voilà.
Merci à Chloé Delhomme, à Serge Tisseron. Les textes extraits des livres « Dans ma maison sous terre » et « Mort de honte » étaient lus par leurs auteurs. Merci à Sonia, à Nicolas. Merci également à Gérard et à Samaï Fossat, à Nathalie Sabokanek, Marie Gothon-Avenel, à Sarah Vuibert et à Rémi Dibowski-Douat. Mixage, Éric Boisset. Coordination, Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier. Un documentaire d'Émilie Chaudet réalisé par Jean-Philippe Navarre. Bye.
LSD, c'est fini pour aujourd'hui. Bibliographie, lien ou pour nous réécouter chez le psychanalyste, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marivonne Bolivier, Mathias Méji et Annelise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur l'application Radio France et la plupart des plateformes, nous trouver sur la page Facebook de France Culture, nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Demain, dernier épisode, restez groupés. Et pour toujours plus de documentaires, abonnez-vous à la plateforme Tank, notre partenaire, qui propose une sélection éclectique, rare et pointue de documentaires d'auteurs. Et pensez aux autres rendez-vous documentaires de France Culture, Une vie, une œuvre, L'expérience, Une histoire particulière et Les pieds sur terre.